Bonjour à tous, nous sommes dimanche, il est 13h, bienvenue dans votre émission Affaires suivantes. Ravi de vous retrouver avec mon complice Dominique
Riese. Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Au programme cette semaine, qui a tué Robert Boulin, ministre du Travail, retrouvé mort au pied d'un étang en 1979? C'est ce que tente de comprendre la justice 47 ans après les faits. Trois juges du pôle cold case de Nanterre ont été désignés pour enquêter sur l'une des plus grandes énigmes judiciaires de la Ve République.
Le soulagement immense de Dany Le Prince qui a vu sa condamnation annulée. La cour de révision donne son feu vert pour un nouveau procès dans quelques mois à Angers où on rejugera le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Douai dans la Sarthe. Comment expliquer, décrypter cette décision rarissime? C'est la 13e fois seulement depuis 1945 qu'on révise un procès. Qui a commis cette tuerie familiale? Connaîtra-t-on un jour la vérité? Dany Le Prince sera avec nous. Il y aura aussi ses avocats, l'avocate de sa nièce, Solène, et ils seront avec nous dans un instant.
Restez avec nous, affaire suivante, c'est tout de suite. C'est l'une des plus grandes énigmes politico-judiciaires de la Ve République. L'affaire Boulin, du nom de ce ministre du Travail, juste derrière moi, retrouvé sans vie au bord d'un étang le 30 octobre 1979. Officiellement, un suicide. Mais ça bouge au Paul Cold Case de Nanterre. D'abord, le rappel des faits avec Pierre-Louis Bousset.
Ministre à 7 reprises, 3 fois secrétaire d'État et une arrivée à Matignon qui semble lui tendre les bras. En 1979, Robert Boulin suit une brillante trajectoire politique vers les plus hauts échelons du pouvoir. Une carrière des honneurs qui s'achève brutalement le 30 octobre. Son corps est découvert au petit matin près de cet étang des Yvelines. Dans la voiture de Robert Boulin, divers écrits et lettres sont retrouvés.
J'ai décidé de me noyer dans un lac de la forêt de Rambouillet où j'aimais faire du cheval.
Les différentes versions des faits se contredisent. Certains témoignages affirment que Robert Boulin a été retrouvé la tête immergée dans les 60 cm d'eau de cet étang. Pour d'autres, son corps faisait face à la berge, là où était garé son véhicule. Au moment de sa mort, le ministre était la cible d'attaques et de rumeurs sur l'acquisition d'un terrain à Ramatuel. Des accusations auxquelles le Premier ministre de l'époque Raymond Barre fait allusion au lendemain du drame.
Dans cette épreuve qui est tragique pour le gouvernement, vous dire de méditer sur ce que peuvent être les conséquences de certaines ignominies et d'une grande bassesse.
La justice conclut finalement à un suicide par noyade après ingestion de barbiturique. Mais pour la famille de Robert Boulin, il s'agit là d'un assassinat politique et pointe la responsabilité du service d'ordre du RPR, le parti gaulliste à cette époque.
Quand on regarde le dossier, rien ne tient rationnellement. On peut pas dire qu'il a marché 6 mètres dans la vase et alors qu'il n'y a pas de vase aux chaussures, qu'il est mort sur le ventre alors qu'il y a scientifiquement c'est prouvé qu'il est mort sur le dos.
46 ans après les faits, les investigations redémarrent. Le Paul Cold Case de Nanterre a désigné 3 juges d'instruction pour reprendre en main le dossier.
Alors, j'accueille sur ce plateau Maître Marine Alali, avocate de la famille Boulin. Merci, Maître, d'être avec nous. J'accueille également Dominique Labarrière, journaliste et auteur de « Quand la politique tue » aux éditions La Table Ronde. Et mon petit doigt me chuchote que vous préparez un nouveau livre pour la rentrée. Merci d'être avec nous.
Merci, votre petit doigt dit vrai.
Et Général Daouz, qu'on ne présente plus, ancien patron de l'IRCGN, qui est avec nous.
Bonjour.
Dominique, écoutez, 3 juges d'instruction désignés par le pôle Cold Case de Nanterre. 3 juges. Pour faire quoi? Pour chercher quoi? Et Maître Alali, je me tourne vers vous. Est-ce que la famille y croit encore? Est-ce que c'est une étape essentielle pour elle?
Bien sûr que la famille y croit encore. Et le dossier est à l'endroit où il doit être. Déjà, la saisine du Paul Colquet, ce qui est hyper important à comprendre, c'est qu'il y a un peu une reconnaissance d'État qu'on est face à un crime. Parce que ce pôle ne se saisit que de matière criminelle, que de meurtre. Si on avait encore un doute sur le suicide aujourd'hui, le pôle aurait refusé sa saisine. Donc pour la famille, c'est une première reconnaissance officielle de l'État que donc leur père, parce que nous on représente Fabienne Boulin, sa fille, s'est fait tuer. Donc c'est un énorme pas pour le dossier. Et ensuite, bien sûr, on croit en la technicité du pôle et de ses moyens
techniques et scientifiques
pour avancer dans l'enquête.
Vous qui le savez, Maître, est-ce qu'il existe encore des scellés, des objets qu'on peut exploiter techniquement? On a l'ancien patron de l'IRCG ici.
Alors malheureusement, les scellés ont été détruites ou perdues. Volatilisé hein, dans ce dossier, ça fait partie des choses extrêmement curieuses et inexpliquées, notamment les poumons par exemple de Robert Boulin
le
qui
larynx,
ont disparu. C'est quand même totalement absurde qu'on puisse perdre des éléments du corps juste après une autopsie. mais on pense qu'il y a la possibilité de faire de nouveaux angles d'investigation pour pouvoir faire déceler, notamment directement sur le corps, qui pourrait peut-être faire avancer l'enquête.
Et d'autres choses, bon, ça, ce sont les organes de l'ancien ministre, mais la voiture, les vêtements qu'il portait, est-ce qu'il y a des choses,
tout a disparu. Été détruit.
Tout.
Alors, on va y revenir justement avec le général Haddouze. Venez avec moi, général, on va essayer de rappeler à nos téléspectateurs les circonstances de la mort de Robert Boulin. On l'a dit, il a été retrouvé sans vie au bord de cet étang dans la forêt de Rambouillet. Qu'est-ce qu'elle dit, cette photo, mon général ?
Alors, cette photo nous dit que nous sommes en 1979, c'est une évidence, mais en 1979, la police technique et scientifique, elle est, je dirais, presque à ses balbutiements, c'est-à-dire qu'on a, autant il y a des laboratoires, mais qui sont en difficulté, celui de la gendarmerie n'existe pas, et la scène, le traitement de la scène de crime ne se fait que par des policiers ou, quand l'IJ arrive, quelques policiers spécialisés. Mais ça se limite à quoi ? D'abord, il n'y a pas de tenue,
non.
De protection,
non.
Il n'y a pas de gants, il n'y a pas de surchaussures, il n'y a rien.
Il n'y a pas de périmètre de sécurité ?
Il n'y a pas aucun, comme vous le dites, exactement. C'est-à-dire qu'on a immédiatement une scène de crime ou une scène de découverte eh bien, qui est massacrée dans le sens où tout est piétiné, tout est touché. Tout.
Elle est souillée dès le départ.
Elle est souillée, contaminée dès le départ. Donc, cependant, on a quelques éléments, des éléments intéressants. D'abord, on s'aperçoit qu'il y a deux types d'unités. Il y a la gendarmerie et il y a la police nationale, qui fait que pendant un moment, ça va se regarder en chien de fusil.
Les gens, on va perdre du temps.
Pour commencer les constatations, qui ne voudront pas être retenus par les autres, qui va générer des versions contradictoires.
Deuxième photo qu'on va analyser avec vous, la dépouille de Robert Boulin. Il y a des stigmates qui peuvent orienter l'enquête et visiblement à l'époque ça n'a pas été fait ou ça n'a pas été correctement fait.
Tout à fait. Alors il y a un ensemble. Il y a des pas qui vont de la voiture à l'étang et des pas qui reviennent boueux de l'étang vers la voiture et tout autour. Alors que Robert Boulin est trouvé dans l'étang. Deux versions. Il est, pour les uns, comme on l'a dit, eh bien, le corps tourné, la tête légèrement tournée vers la voiture, vers la berge, pas dans la position d'un noyé qui est allongé face vers le fond de l'eau. Et il y a les témoins qui sont là, neuf. On a leur déclaration qui disent « Les pompiers l'ont sorti délicatement, face vers le ciel, et l'ont déposé sur la berge. » Et on voit plusieurs choses. D'abord, ce qui frappe les pompiers, et aussi un médecin urgentiste qui accompagnait les pompiers, c'est le trauma facial.
Alors, on ne le voit pas sur cette photo parce qu'on a décidé de flouter le visage, mais il est tuméfié.
Il est tuméfié, il y a des traces de sang qui sortent du nez, etc. Ce qui l'avait étonné, c'est la position, puisqu'il avait vu la position du corps dans l'étang, en disant, bon, des noyés, j'en ai fait dans ma carrière. Je n'ai jamais vu un noyé qui avait une telle position anormale pour un noyé. Après, on verra les autopsies. Et il y a le poignet droit, où on a ici à peu près une trace de ligature à son poignet.
Ça veut dire quoi, des liens ?
Des liens. Ça sera confirmé par l'autopsie de 1983, comme quoi il y avait bien une trace de lien. Donc on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au milieu de ce chaos. Et sur la voiture, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de prélèvements qui n'ont pas été faits, des révélations d'empreintes digitales pour des prétextes qui ne sont pas scientifiquement bons, même pour 79, qui ont été mis de côté.
Merci beaucoup, Général. Alors, Dominique Labarrière, quel manquement d'enquête au départ ? Parce qu'on a parlé effectivement de l'autopsie, on a parlé du visage tuméfié, et puis on a parlé de ces traces sur la voiture qui ne sont pas relevées.
Oui, alors... Le général, vous avez raison, il y a tout un tas de manquements, ça a été mal exploité, mal fait, mais il y a une explication toute simple, qui est humaine. C'est que quand vous avez toute la hiérarchie, du plus haut au plus bas, et là on est très haut, c'est la présidente de la République, c'est le cabinet du Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le garde des Sceaux, c'est le procureur général, qui dès la matinée disent « c'est un suicide », ça devient la vérité officielle.
Et non.
Alors les subalternes qui sont chargés du boulot vont pas se défoncer, vont pas faire preuve d'un zèle extraordinaire au risque de tomber sur quelque chose qui pourrait compromettre cette belle vérité. Personne ne veut perdre son job, personne ne veut voir bousiller sa carrière. Alors c'est humain, c'est pas glorieux, mais c'est humain. Donc quand on trouve des viscères ou des choses qui peuvent, on évacue. Et pourquoi ça a été possible ? Parce qu'on a commis une erreur dès le début. Et là, il y a probablement une manipulation politique du garde des Sceaux, Alain Perfit à l'époque, c'est que dans ce cas-là, on doit immédiatement désigner un juge d'instruction.
Ce qui n'a pas été fait.
Un personnage de cette importance politique, dans un endroit aussi improbable que celui-ci, dans des conditions aussi troubles, on doit faire une véritable instruction, nommer un voilà.
Alors, moi je suis bien votre raisonnement, Dominique, mais si ça se passe comme ça, ça veut dire que dès le départ, on dit c'est un suicide. Circuler, il y a rien à voir, circuler les enquêteurs, mais c'est-à-dire quand même que plusieurs personnes sont au courant. Ça voudrait dire que ceux qui ont ordonné sa mort, sa mise à mort, qui seraient des gens proches du SAC, le service d'action civique, mais oui. Des personnes dans le gouvernement, jusqu'à des informations qui seraient données au procureur de Versailles pour lui dire « on se tait, on dit rien ». Ça fait quand même beaucoup de monde dans la combine, non
Christel, on trouve ça dans d'autres dossiers. Il y a un moment où
je ne dis pas que ça n'a pas existé, hein. Je vous pose la question.
Il y a la faiblesse humaine fait qu'il n'y a même pas besoin de donner de consignes, si vous voulez. C'est comme ça. Et puis, encore une fois, la vérité est tombée, là. Ça y est, donc on ne veut plus bouger. Et alors personne ne bouge. Par exemple, si c'était une affaire uniquement politique pour la nomination de Robert Boulin à Matignon, Giscard et le clan Giscard se seraient remués. Mais c'est-à-dire qu'il gêne tout le monde, Robert Boulin. Il a sorti des dossiers de son ministère en début d'après-midi, me semble-t-il. Là-dedans, il y a le fameux dossier ELF.
Et est-ce que les dossiers ont été retrouvés?
Ben non, je pense pas, à ma connaissance, non. À ma connaissance,
Maître
non.
Non, il a été vu chez lui avec des dossiers qu'il aurait ramenés de son ministère et ça
n'a
pas été retrouvé chez lui. Oui. Mais il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été retrouvées chez lui et d'autres choses qu'on trouve qui apparemment n'y étaient pas au début. Donc,
dont la fameuse lettre.
D'où les fameuses lettres, oui, des brouillons, des papiers déchirés. En fait, il y a des choses incohérentes qui laissent penser, et la seule solution rationnelle qui existe est de dire qu'il y a une mise en scène pour justifier le suicide après le décès de Robert Boulin.
Mais qui peut encore parler plus de 45 ans après les faits? Alors, Didier Seban, avec qui vous travaillez, avait expliqué qu'il a reçu dans son cabinet un homme qui dit savoir qui a tué ou qui était commanditaire. Est-ce qu'il y a une piste chaude? Même si c'est le Paul Colquest qui a été saisi, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de tirer des fils encore aujourd'hui, 47 ans après?
Oui, bien sûr, il y a encore des témoins vivants quand même de cette époque, même si évidemment certains sont morts. Et en ce moment, les enquêteurs qui sont saisis du dossier continuent les auditions et les investigations, bien sûr. Donc il y a encore des gens qui peuvent savoir des choses et mis bout à bout qui peuvent nous donner... une vérité, et il y a aussi encore des choses de police scientifique à notre sens qui sont possibles. On demande depuis maintenant quelques mois l'exhumation du corps pour pouvoir confirmer ou infirmer cette thèse de la noyade. Mm-hmm. Que ça soit l'un ou l'autre, pour nous, on n'a pas de préférence. Une noyade peut être un maintien de la tête sous l'eau et aussi totalement criminel. Hein. Mm. Nous, on n'exclut pas totalement peut-être cette thèse de la noyade, mais dans tous les cas, elle colle avec... avec une théorie criminelle du fait des coups portés à la tête, et ça, c'est des choses complètement certaines.
Une des dernières révélations qui avait été faite, c'est cette voiture qui passait qu'un voisin avait vu avec plusieurs personnes
deux
dedans.
Deux personnes avec Robert Boulin, c'est ça, ouais.
Un voisin, enfin oui, de quelqu'un de la ville à côté,
pas
voit
loin
la
de
voiture
pas loin
passer,
de
exactement, et de là où les lettres auraient été postées, voit trois personnes dans la voiture, dont Robert Boulin qui le reconnaît. Et deux autres personnes qui sont aujourd'hui non identifiées. Et ce témoin, voilà, il s'est manifesté il n'y a pas si longtemps que ça au vu de l'ancienneté des faits. Mmh. Et sa parole est totalement crédible et désintéressée.
Donc il y a de l'espoir.
Non seulement crédible, mais vérifiable. C'est-à-dire, ils ne se croisent pas, les voitures. Ils sont bloqués dans une petite rue de Montfort-l'Amaury. Et ils doivent attendre. Et donc, il a le temps d'observer les personnes.
Ah, oui.
Il voit que Robert Boulin n'est pas le conducteur, mais le passager, et qu'il y a un conducteur et un type derrière.
On sait qu'il allait voir des gens, en fait. Donc, de toute manière, avec qui il avait rendez-vous, ça, personne ne le sait aujourd'hui.
Est-ce que vous demandez toujours la déclassification des dossiers des services secrets? Parce qu'il y a tout un pan qui nous échappe. On sait que la CIA a un rapport sur Robert Boulin et qu'on n'y a pas accès.
Bien sûr, les services secrets français, voire également américains, on sait que des fichiers ont été faits à l'époque, des investigations parallèles par les différents services. Et il y a, de manière certaine, des éléments intéressants à l'enquête aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas eu ce droit à déclassification. Donc, soit on attend les 50 ans, maintenant, c'est très bientôt. Donc, de toute manière, il y aura une ouverture de certains dossiers. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, mais on le demande de manière officielle au ministre de l'Intérieur, c'est d'accepter la déclassification, finalement, que 3 ans avant la date légale, pour qu'on puisse y avoir accès. Et s'il n'y a rien à cacher, on trouvera rien de gênant dedans.
Maître, quand on arrive au pôle à Nanterre, avec les magistrats du pôle des affaires non élucidées, on arrive avec un dossier? Eux vous appellent en vous disant on reprend cette affaire, vous êtes les avocats de la famille Boulin.
Comment ça se passe?
Venez nous voir et vous arrivez avec toutes vos investigations, vous leur dites nous on a entre-temps on a fait tout ça.
Donc ces trois magistrats vont nous recevoir la semaine prochaine. Donc, déjà c'est on a pris date, on va se rendre avec Fabienne Boulin au tribunal judiciaire de Nanterre pour les rencontrer, sa fille. Et avec ça nous on a toutes nos demandes et notre étude du dossier bien sûr, et le but de ce rendez-vous c'est réciproque, c'est-à-dire qu'ils nous disent ce qu'ils comptent faire aujourd'hui. Et nous, on va, si vous voulez, expliquer nos demandes, pourquoi on veut que ces aides d'investigation soient faites. Et ils vont nous répondre sur est-ce qu'ils vont les ordonner ou pas. Et on a des recours, évidemment, si certaines choses ne sont pas
faites. Dominique, oui.
Alors, il y a une énigme dans l'énigme. C'est pourquoi tant de gens et d'horizons tellement différents ont cru si longtemps au suicide. Ils ne sont pas tous pourris, ils ont de bonne foi. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce qu'on nous a présenté comme la préparation, le travestissement du crime en suicide est tellement sophistiqué. C'est très sophistiqué. On nous présente que des lettres ont pu être écrites sur la machine personnelle de Robert Boulin, qu'une équipe aurait cambriolé la poste de Montfort-Lamaury pour substituer le courrier déposé par Robert Boulin pour mettre le faux fait par les futurs assassins, le courrier dans lequel il précise ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais mettre fin à mes jours à tel endroit de la forêt de Rambouillet. Il faut que les assassins connaissent ce détail, là où j'aimais faire du cheval voilà 15 ans, et qu'ils étaient juste utiles. C'est pour ça que Jean-François Kahn ne croyait pas ou Van Rienbeek ou
le juge Van Rienbeek. Et quand vous dites qu'une équipe aurait cambriolé la poste, c'est pas difficile à vérifier. La poste a été cambriolée, la poste de Montfort-Lamaury.
On ne sait pas, mais tout
on sait pas. Ça a été, voilà. Ça n'a même pas été vérifié.
Oui, parce qu'on ne sait pas. On sait que le courrier, vous me corrigerez, Matt, si je dis une bêtise. On sait que l'employé des postes s'est rappelé du dépôt du courrier de Robert Boulin parce qu'il n'était pas assez affranchi ses lettres. Ces courriers n'étaient pas assez affranchis, donc c'était des courriers relativement pesants. Oui, voilà, c'est ce qu'on sait. Après tout le reste, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois qu'on fait tomber une certitude, c'est extrêmement difficile. Vous savez, mon général, dès qu'une enquête commence mal,
c'est fichu.
Alors saura-t-on jamais un jour la vérité, maître Alali? Est-ce que vous avez bon espoir avec les progrès techniques et scientifiques?
Oui, bien sûr, on a espoir d'avancer. Déjà de démontrer de manière certaine et d'enlever tout doute du suicide, qu'on est bien face à un crime. Et ensuite, une fois qu'on a établi ça, parce que c'est le point de départ en fait. On n'a pas travaillé, on n'a jamais trouvé. Pourquoi? Parce qu'on est resté sur le suicide.
Exactement.
Donc une fois que ça s'est levé de manière rationnelle et définitive, on peut passer à autre chose et enfin mettre tous les moyens pour trouver qui a exécuté Monsieur Boulin. Et en plus, de toute manière, il y a des commanditaires, il y a des hommes de main. Enfin,
l'histoire n'est pas terminée.
Exactement.
Merci à tous de vos lumières. Merci d'être venus avec nous. Dans quelques minutes, affaire suivante revient. Nous allons évoquer le V de la victoire formé par Dany Le Prince, car la Cour de révision a décidé d'ordonner un nouveau procès. Écoutez-le.
Le combat continue. Et je suis déterminé, non seulement pour le procès en révision, mais également pour la vérité qui doit éclater. Je suis un peu ému, mais bon, en tous les cas, il faut que la vérité éclate.
Bienvenue dans Affaires suivantes, si vous nous rejoignez. Dany Le Prince aura droit à un nouveau procès, sans doute dans quelques mois à Angers, comme l'autorise la Cour de révision. 30 ans de bataille judiciaire, un quadruple meurtre toujours irrésolu, qui a coûté la vie à son frère, sa belle-sœur et deux de ses nièces. J'accueille Dany Le Prince, merci d'être avec nous. J'accueille vos avocats à vos côtés, Maître Olivier Maurice, Maître Missiva Shermak Felono, et à nos côtés aussi, j'accueille Maître Myriam Keladi Reynard, avocate de Solène, la nièce rescapée de Dany Le Prince, rescapée de ce quadruple meurtre. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Simplement pour ceux qui sont nés après l'affaire de Tourigny-sur-Devey, je vous propose d'abord un rappel des faits avec Pierre Lebousset.
Dany Le Prince, condamné à la perpétuité pour le meurtre en 1994 de son frère Christian, de sa belle-sœur Brigitte et de ses deux nièces, Audrey et Sandra, 7 et 10 ans, dans la maison voisine de la sienne. Toute la famille, à l'exception de la cadette, Solène, 2 ans, a été retrouvée morte. Assassinée avec cette arme, une feuille de boucher, habituellement rangée dans un tiroir chez Dany et sa femme, Martine Le Prince. Une tuerie et un coupable tout trouvé, Dany Le Prince, 37 ans à l'époque des faits. Sa femme et sa fille l'accusent. Le procureur, lui, avance un mobile, un différend financier entre les deux frères.
Des raisons peut-être d'intérêt ou de jalousie. Enfin, les vieilles motivations qui font malheureusement parfois, dans le mauvais sens, marcher le monde.
En garde à vue, Dany le Prince reconnaît avoir tué Christian, avant de se rétracter dans la foulée. Des aveux qui n'ont aucune valeur selon son avocat de l'époque. Il dénonce un manque de preuves.
Aucune trace matérielle, il n'y avait pas d'empreinte digitale, il n'y avait pas de trace ADN, il n'y avait pas de trace de pas, il n'y avait pas de trace palmaire, il n'y avait rien.
Dany le Prince est-il condamné à tort ? Un long parcours judiciaire, mais pour lui qui se dit innocent, des questions qui restent en suspens. Et notamment le rôle qu'a joué sa femme de l'époque, Martine, dans cette affaire. Au cours de l'enquête, à plusieurs reprises, elle change de version, assure ne plus se souvenir du déroulé exact de la soirée du meurtre. Selon des expertises, elle aurait pu simuler ses pertes de mémoire. Dany le Prince, qui sera donc jugé à nouveau, la date de son procès n'a pas encore été dévoilée.
Alors, Dany le Prince, merci d'être avec nous, merci de revenir. Vous étiez là dès jeudi, sur ce même plateau, et jeudi, je me souviens, on vous a senti sonner sans trop pouvoir réaliser ce qui allait se passer pour vous. Trois jours après, comment est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous vous réalisez un peu plus ?
Alors, je me sens un peu mieux, mais je suis quand même un petit peu sonné. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Cette heure de révision, c'est déjà un marathon, et c'est un travail énorme de mes avocats. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça ne se fait pas comme ça, une procédure de révision, c'est plus qu'un marathon, c'est un truc de fou. Voilà.
Quels sont les sentiments qui vous traversent pour bien essayer de comprendre ce qui se passe dans votre tête ?
Je n'ai pas encore tout réalisé, mesuré, je connais l'importance de cette décision. Mais c'est encore, il faut que je me retire de Paris pour mesurer pleinement.
Prendre du champ.
Oui.
Alors, on va revenir sur cette décision, Dominique.
Ouais. La décision a été cassée, elle n'existe plus, donc vous êtes innocent.
C'est énorme.
Ça change quoi dans votre cerveau ?
Pas grand-chose, parce qu'il y a encore des échéances à venir, et donc il ne faut pas, pas le galvauder, il faut y penser, mais il faut se préparer, quoi. C'est pas... Il n'y a pas que moi, il y a aussi la vérité de l'affaire et il faut savoir qui a massacré ma famille. C'est très important.
Alors on va revenir justement sur la motivation de la cour de révision. Et il y a deux éléments nouveaux qui sont venus fragiliser le dossier. Solène et son instrumentalisation, et puis les multiples versions et les pertes de mémoire de Martine Compain, on y reviendra. Mais avec vous, Maître Myriam Keladi-Reynard, comment est-ce que votre cliente, Solène, elle a vécu et elle a éprouvé cette journée ? Alors, elle n'était pas à l'audience jeudi, mais je sais que quand elle est venue témoigner, il y a quelques mois déjà, ça avait fait... ses mots avaient énormément pesé dans cette salle d'audience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle aujourd'hui ?
Pour elle, aujourd'hui, l'enquête peut enfin commencer. Parce que ça fait 30 ans qu'elle essaye de se construire sans souvenir, sans histoire et sans aucune possibilité de rechercher la vérité. Puisque cette condamnation de Dany le Prince faisait obstacle à toute recherche de la vérité. Et pour autant, les questionnements qu'elle avait demeurent et la taraude, puisque elle est la seule rescapée d'un massacre. Elle n'a pas de réponse à ses questions et à chaque fois qu'elle veut avancer dans ses questionnements, il lui est rétorqué que l'enquête est terminée. Donc c'est pour elle un pas énorme. Il faut voir que depuis 30 ans, elle essaye de se construire avec quelque chose et avec cette parole qu'on lui a
fabriquée
finalement. Totalement fabriqué, ce sont quand même les propos d'un bambin qui n'avait pas la parole à cette époque-là. C'est une personne aujourd'hui, Solène le Prince, et qui l'a dit à la cour, et que moi je peux vous le redire, qui n'a aucun choc psychotraumatique, qui s'est développé d'un point de vue psycho-affectif et surtout psychologique totalement normal.
Donc traduction, elle ne se souvient de rien.
Ah, mais c'est même pas traduction, c'est une affirmation.
Non, mais pour nos téléspectateurs.
Bien sûr, je me permets moi-même de vous le dire.
Oui.
C'est une affirmation, elle ne se souvient de rien et surtout, elle refuse qu'on lui prête les souvenirs qu'elle aurait pu avoir à cet âge-là.
On va peut-être préciser que c'est sa nounou qui va déclarer des choses. La petite a 2 ans, là, derrière une porte dans sa chambre. Elle a grandi depuis, donc finalement, vous vous retrouvez dans le même camp. Solène, qui veut connaître la vérité sur la mort de ses parents et de ses deux sœurs, vous qui voulez connaître la vérité sur la mort de votre frère, belle-sœur, et comment est-ce que vous avez pris contact, Solène et vous? Parce que quand vous partez, elle a quand vous partez
Dany
en détention, elle a deux ans. Elle a deux ans. Comment ça s'est passé? Vous êtes sorti de détention et ensuite vous êtes retrouvé dans le même combat. Vous vous êtes rencontré, vous vous êtes retrouvé. Comment ça s'est passé?
Non, moi je rentrerai pas.
Maître,
je
laisserai. Pouvez-nous répondre?
Conseil de.
Je n'ai jamais rencontré Solène Le Prince.
D'accord.
Mais votre question est intéressante. Mais très franchement,
parce que maintenant c'est le même combat.
Elle ne présente aucun intérêt par rapport à ce qu'a rendu
Merci.
La Cour de révision.
Mais
voyez-vous, parce que d'abord la Cour de révision,
la
Cour de révision n'a pas cassé cette décision. La Cour de révision a annulé une condamnation,
oui.
Ce qui est totalement différent et beaucoup plus puissant. En réalité, Solène Le Prince, ce qu'elle veut, c'est surtout comprendre les mensonges qui sont évidents de Martine Compain. Et ces mensonges-là. Ce n'est pas Dany Le Prince qui a une explication à lui donner, puisque Dany Le Prince ne sait rien de tout cela. Et c'est ce qu'a indiqué, voyez-vous, la Cour de révision, et qui me semble très importante, c'est que, en fait, Martine Compain, elle a menti en toute connaissance de cause, elle a simulé.
C'est ce que dit effectivement le mot simulation est dans la motivation.
Simulé, c'est considérable, ça signifie que celle qui est l'accusatrice principale de Dany Le Prince a simulé. Et l'autre témoin principal de ce meurtre aurait été une petite fille de 25 mois qu'on a fait parler, puisque la seule qui aurait vu les crimes concernant la belle-sœur et les deux enfants, c'est Solène. Il n'y a rien d'autre.
Maître, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, ben je souhaiterais ajouter quelque chose pour répondre à cette question d'éventuelle prise de contact pour finalement se rejoindre sur ce combat. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que d'un point de vue juridique, Solène Le Prince a un statut, qui est le statut de partie civile. Ce statut a fait qu'elle a été informée de la procédure de révision et qu'elle a pu elle-même participer à cette procédure.
Ah oui.
Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a souhaité effectivement faire connaître sa volonté, elle, de participer à cette procédure de révision pour les raisons que vous avez énumérées, que vous avez rappelées, à savoir, et je pense que c'est extrêmement important même pour les téléspectateurs, qu'elle refuse de devenir et d'être le témoin clé qu'elle a été dans ce dossier. C'est comme ça, finalement, qu'elle est en fait intervenue à la procédure et non pas par une prise de contact, mais plus par la procédure elle-même qui le permettait.
Très bien. Alors, à l'origine, Dany Le Prince, et il faut revenir, je pense, au tout début, en garde à vue, au tout début de l'affaire, vous avez avoué avant de vous rétracter. Mais moi, j'aimerais comprendre, et que vous nous le racontiez avec vos mots, dans quelles conditions se sont déroulés ces aveux.
Tout d'abord, quand j'apprends le drame qui s'est déroulé dans notre famille, moi je suis abattu. Et évidemment, jusqu'à la garde à vue, je ne vais pas dormir de la nuit. C'est quand même pas rien, quoi. En plus de ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Personne n'a rien entendu, moi personnellement j'ai rien entendu, et donc on se retrouve en garde à vue. Et donc moi j'arrive en garde à vue, je suis déjà...
Crevé. Épuisé.
Et ça, les gendarmes, ils le savent. Hein. Ils le savent très bien. Bon, je vais vous passer les premières heures de garde à vue, parce que c'est... Ça se raconte pas, enfin bref. Mais c'est vers la fin de la garde à vue, où il y a une bonne dizaine de gendarmes qui viennent autour de moi, qui viennent me dire « Il faut que tu avoues. Ta femme t'a vu courir après ton frère avec une feuille de boucher. » Et le gendarme qui me dit ça, c'est le gendarme qui s'occupe de la garde à vue de mon ex-femme.
Martine Compain.
Pour arrêter de raconter n'importe quoi. Hein, parce qu'il se consulte. Normalement, il ne devrait pas, mais il se consulte.
Mm-hmm.
Et donc, moi, je demande ce qui se passe, quoi. Et puis après, j'entends des cris.
Des cris.
Des cris de femmes, de jeunes filles. Enfin, je ne sais pas trop, parce que moi, je ne sais plus si c'est jour, nuit, j'en sais rien.
Dans les bureaux de la gendarmerie.
Ouais, parce qu'on ne sort pas. Hein. Et quand on nous parle de pause en garde à vue, ça, c'est du pipeau. Hein. Ça n'existe pas, ça. Et donc, j'entends ces cris, je me demande ce qui se passe. Et là, il y a un gendarme qui vient me voir et me dit c'est des cris de ta fille, enculée, qui sont là. Alors moi, je ne comprends plus rien, je prends peur pour ma fille. Et donc, je vais répéter, hein, je ne veux pas tout raconter, je vais répéter les dires de l'enquêteur, et je peux citer son nom, hein. C'est Perdriau, hein, le gendarme Perdriau, un enquêteur.
Votre fille, à l'époque, elle a quel âge, pardon?
Elle a 16 ans. Ouais. Elle a même pas 16 ans. Et donc, la garde à vue se termine comme ça. Mais il ne pose pas de questions pour les autres. Ils s'en foutent. Il faut un aveu, quoi. Et donc, ce n'est que quelques jours plus tard, le 29 septembre 94, si mes souvenirs sont bons, j'étais déjà revenu sur mes aveux lors de la première reconstitution.
Oui.
Et là, me dit le juge, je vais vous reconvoquer rapidement, et ainsi de suite. Et donc, je lui parle de ça pendant l'audition, et elle me dit, mais c'est pas votre fille que vous avez entendue, puisqu'elle était entendue à ce moment-là, à Conly, à 40 kilomètres du Mans.
Donc, géographiquement, elle pouvait pas être dans les mêmes locaux. Donc, c'était
impossible. Et c'était une femme gendarme qu'ils avaient fait crier, les enquêteurs, pour la faire passer pour ma fille. Alors, évidemment, quand je raconte ça, évidemment, on me prend pour un cinglé, quoi. Mais c'est une réalité. Alors, moi, je vais faire une petite parenthèse. J'en avais parlé à un journaliste de West France. Je lui ai dit, ça serait bien de raconter un peu ce que j'ai vécu.
En garde à vue.
En garde à vue. Ah, ben, non, je peux pas faire ça. Hein. J'ai dit, si c'est un gendarme qui vous le dit, vous allez faire. Et là, il ne m'a pas répondu.
Ce qui est vrai, c'est quand vous avez fait un coup... les gendarmes, pardon, vous avez fait un coup tordu, parce que la garde à vue, c'est là que j'ai découvert que ça pouvait exister. Ce n'est pas une garde à vue à 6h du matin, je crois que c'était un mercredi soir, moi j'y étais. Hein. Quand ils viennent vous chercher, je suis là, je suis dans la cour de votre maison. Et ils viennent vous chercher à 20h45. C'est-à-dire que quand la garde à vue commence, ce n'est pas une garde à vue du matin. Quand on vient chercher quelqu'un à 6h du matin, il sort du lit, il est frais. À minuit, il a passé une journée complète. Il est fatigué, mais il est minuit. Quand on vient chercher quelqu'un à 20h45, quand le corps est en garde à vue, à 6h du matin, ça fait que 9h qu'il est en garde à vue, mais il est 6h du matin et il est déjà fracassé.
Et ce que raconte Dany Le Prince sur la fin de la garde à vue, je crois, sauf erreur de ma part, qu'on est à la 46e heure.
Exactement.
Donc,
oui,
vous
donc
imaginez 46e
heure, c'est l'heure où vous n'avez pas dormi, quoi.
Moi, j'ai pas dormi depuis le lundi.
Ouais. Depuis le lundi matin, 8h30, moment où on découvre le corps de...
Et il n'est pas assisté par un avocat.
Autre temps, autre pratique de garde à vue.
Et je me suis levé à 2h30 pour aller au travail.
À l'époque, il n'y a pas de présence d'avocat.
Ah, mais vous êtes en horaire décalé. Et en plus, vous êtes en horaire décalé. Donc en fait, vous n'avez pas dormi depuis deux jours avant d'arriver en garde à vue, quoi.
Non, mais c'est horrible. Ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse, parce que finalement, c'est vraiment une femme gendarme qui a crié. Et ça, c'est odieux.
Alors, par ailleurs, il y a pas mal...
Alors, c'est la raison pour laquelle que par la suite... Ils vont s'amuser, ils vont bricoler, vont essayer de faire rentrer des ronds dans les carrés, hein, que ce soit les enquêteurs, voire la juge et peut-être le proc, pour décaler l'heure des crimes.
Antidater alors?
Ils vont pas...
Décaler
l'heure des crimes.
Non, simplement, avoir une piste très rapidement, c'est celle de Dany Le Prince. On va rien chercher d'autre. Si vous voulez, c'est la vision tunnel, ce que l'on appelle... En matière criminelle, la vision tunnel, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui passe des aveux d'ailleurs partiels, puisque vous savez que l'arrêt qui va saisir la cour d'assises dit qu'il a avoué les quatre crimes, ce qui est faux. Ce qui est faux. Bien. Et puis à partir de l'instant où il y a ces aveux, on se dit on a un coupable potentiel, et puis on fonce. Et tout est orienté comme cela. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui la décision qui est rendue par la cour de révision, qui est une décision historique, exceptionnel. Hein. C'est-à-dire que ce qu'a rendu comme décision la cour de révision, c'est une véritable œuvre judiciaire. Il faut comprendre cela. Hein. C'est rarissime et en même temps, c'est aux magistrats, puisqu'ils sont 13, ils savent que derrière, il y a le spectre de l'erreur judiciaire qui pointe. Ils en ont parfaitement conscience. Et c'est pour cela que j'ai dit... en sortant de cette audience, que Martine Compain, donc l'ex-femme de Dany Le Prince, avait du souci à se faire.
Oui.
Elle a vraiment du souci à se faire. Pourquoi? Parce que si ça n'est pas Dany Le Prince, c'est bien quelqu'un. Et quel est l'intérêt pour Martine Compain d'avoir simulé, d'avoir accusé son mari d'une manière tellement fausse et mensongère, si ce n'est pour masquer ses potentielles responsabilités?
Alors aujourd'hui, on le rappelle, elle est témoin assistée. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est quoi la suite? Parce que une fois la révision passée et ce procès qu'on attend dans quelques mois, est-ce que Martine Compain peut être inquiétée d'une manière ou d'une autre?
Oui, évidemment. Elle peut tout à fait... Là, comme vous l'avez rappelé, actuellement, elle est placée sous le statut de témoin assisté dans le cadre d'une instruction ouverte au Mans. Mais une fois, bon, maintenant la condamnation de Dany Le Prince est annulée, on peut tout à fait envisager une mise en examen de Martine Compan.
C'est la configuration.
Allez-y, maître, ajouter quelque chose pour compléter les propos de Mitiva Chermak-Felono. Dans le cadre de cette instruction au Mans, le procureur avait demandé la mise en examen de Martine Compan. Ça a été refusé par le juge d'instruction. Il y a eu appel de cette ordonnance de refus. Et puis finalement, le parquet général s'en est remis à la décision de la juge d'instruction et n'a pas poursuivi cette demande de mise en examen. Il se trouve que j'y étais puisque je représentais Solène Leprince. Nous avons très longuement plaidé. Martine Compan était présente, assistée de ses avocats, et l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a été rendu a repris d'une part les simulations et les multiples contre-vérités de Martine Compan, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que cet arrêt rappelle que tous les éléments qui ont pu être relevés à l'encontre de Martine Compan et qui auraient pu fonder, ou en tout cas être considérés comme des indices graves ou concordants, ne pouvaient l'être en l'espèce en raison de la condamnation définitive de Dany Le Prince. Aujourd'hui, tout cela, c'est faux.
Aujourd'hui, la voie s'ouvre.
Aujourd'hui, la voie s'ouvre.
Et on est dans une configuration qui rappelle l'affaire Dils, Patrick Dils, condamné, rejugé, recondamné, mais bon, acquitté finalement. Et Patrick Dils est innocent, c'est votre cas, là, jusqu'ici. Et ensuite, on va faire un procès Francis Holmes. Ce qui veut dire que si Martine Compan comparaît un jour, on reviendra la chercher en lui disant « Madame, on a des raisons de penser que vous n'avez pas dit toute la vérité, qu'on vous soupçonne de point de suspension, parce que je ne veux surtout pas m'engager dans quelque chose de... » Et je veux dire, c'est comme ça que ça doit se passer, normalement.
Vous savez, en plus, ce qui est quand même terrible, il faut s'en souvenir, parce que c'est un peu lointain maintenant, mais Patrick Dils, il a été acquitté en 2002.
Oui.
Et Francis Holmes, dans un premier temps, il bénéficie d'une ordonnance de non-lieu en 2007.
Oui, c'est vrai. J'ai oublié
ça. Et il ne sera définitivement condamné qu'en 2017.
Donc c'est très long.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De 2017. Ouais. C'est-à-dire
que. Ça veut dire que le chemin est encore très long.
Mais c'est-à-dire que le chemin est très long pour la justice.
Oui.
Peut-être pour connaître la vérité.
Oui.
Mais le chemin pour Dany Le Prince, nous sommes extrêmement confiants devant la cour d'assises parce que à travers la décision qui vient d'être rendue par la cour de révision, c'est l'accusation qui s'effondre.
Oui.
C'est un château de cartes. Pourquoi? Parce que Solène Le Prince, elle est plus l'accusatrice. Et puis parce que Martine Compan, elle simule. Donc il reste quoi? Il n'y a pas de trace ADN.
Bah alors il n'y a aucun élément scientifique. Moi je me tourne vers vous, général. Il y a tellement d'incohérences dans ce dossier. Il y a des traces de pas. Il y a un espace-temps qui est beaucoup trop serré pour arriver à commettre cet horrible quadruple meurtre en si peu de temps. Donc en fait, il y a quand même un certain nombre de choses qui, ce que vous, je reprends l'expression de Dany, ils ont voulu faire rentrer des ronds dans des carrés.
Alors ça, je laisse aux enquêteurs, aux juges à l'époque, toute leur responsabilité par rapport à ça. En revanche, toutes les traces qui ont été là, ce sont des traces matérielles, factuelles, qui ne peuvent pas être balayées de revers de la main. Mais elles ont besoin d'être interprétées. Interprétées à l'aune de tout ce que vous avez dit, à la fois des horaires qui doivent être des horaires cohérents et remis dans le contexte, et cette frise chronologique de quand, comment ou autre, elle ne doit pas être fabriquée, mais elle doit être constatée, ce qui est différent. Et toutes les traces qui peuvent être attribué finalement à quelqu'un d'autre, c'est là où toute l'interprétation a son sens. C'est que si on a voulu les mettre sur le dos de quelqu'un ou les écarter parce que justement ça ne permettait pas de désigner quelqu'un.
Il faut tout remettre dans le tamis, quoi, dans un autre tamis.
Exactement.
Ce qu'il faut avoir à l'esprit, que sur la scène de crime, on a de l'ADN, on a des traces de pas, on a des empreintes digitales.
On n'est pas démunis, en fait.
Mais ce ne sont pas celles de Dany Le Prince.
Voilà.
Et c'est pour ça que pendant l'enquête initiale, elles ont été écartées parce qu'elles ne collaient pas avec la thèse de l'accusation.
Mais ça
relance les
c'est pour ça que c'est passionnant, parce qu'en fait, on a les outils, mais il faut les revisiter.
Et en revanche, on a retrouvé l'ADN mélangé de Martine Compan avec Audrey Le Prince. Je ne sais pas si vous imaginez.
Sur la lame.
Sur la lame. Je ne sais pas si vous imaginez si on avait retrouvé l'ADN de Dany Le Prince mélangé avec Audrey Le Prince, mais on aurait dit, mais voilà, la preuve matérielle est évidente.
Mais maître, donc
on ne serait pas là.
Enfin, je veux dire, s'il y a son ADN mélangé.
Alors on n'y est pas.
À l'ADN de la
victime. Et on reste prudent, s'il vous plaît.
La justice, non,
la justice va la chercher. Au moment où on se parle, elle est témoin.
Quand on dit c'est elle, on s'entend, on on est en train de se parler ici, bien sûr qu'elle est présumée innocente. Mais si on trouve son ADN en même temps que l'ADN de la victime, on va quand même aller lui demander, madame,
expliquez-nous ça.
J'imagine que ça a été fait quand même.
Mais comme
on lui a demandé.
Non, mais comme cela a été dit tout à l'heure, en fait, elle aurait dû être mise en examen.
À minima.
Oui. Par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers. Et si elle ne l'a pas été, c'est parce que on a considéré que Dany Le Prince était condamné définitivement. C'est écrit d'une manière explicite dans l'arrêt de la chambre de l'instruction. Aujourd'hui, cet argument-là, il s'effondre. Dany Le Prince, sa condamnation est annulée, il est présumé innocent. Et le raisonnement de la chambre de l'instruction était de dire, elle a menti, c'est pas conforme à la réalité, et en fait, on retrouve de l'ADN. C'est quand même gênant. Mais la question qu'on peut se poser tout de même, c'est que pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été mise en cause initialement dans le cadre de cette affaire ?
On s'est tous posé la question.
On s'est tous posé la question.
Notamment ceux qui étaient sur place.
Et ce qui est très intéressant, c'est que l'arrêt... C'est que l'arrêt de la cour de révision pointe du doigt la responsabilité potentielle d'un gendarme, d'un major qui était très proche de la nourrice, et on sait que ce major, en dehors même de toute règle déontologique concernant la procédure, il a organisé une rencontre après les faits entre Martine Compain et Nelly Hatton. Et ensuite, elle change de version. Oui. C'est hallucinant ce qui s'est
passé.
Donc,
il y avait une porosité qui était de facto première et qui a dû, à mon avis, abîmer toute cette enquête de départ.
La cour de révision a le courage remarquable de dire, de pointer du doigt les relations entre la nourrice et ce gendarme.
À l'époque, c'est vrai que Daniel Le Prince est celui qui fait l'affaire. Donc ça va aller vite, ça va être vite réglé.
Bah, ça arrange tout le monde d'une certaine manière. Oui, il y a un coupable et puis le coupable idéal.
Mais du point de vue de Solène Le Prince, vous voyez, c'est exactement ce qui fait obstacle à la recherche de la vérité pour elle. Puisque Solène Le Prince, elle est retrouvée dans sa chambre, dans son lit. Il n'y a aucune trace de sang, ni dans cette chambre, ni sur la porte.
Elle n'a pas été changée. Parce que
les constatations de départ en 94, elle a sa couche de nuit. D'accord. Ensuite, on a donc Solène Le Prince est confiée à Nelly Hatton qui s'intéresse de très très près à cette enquête qui va développer quand même des relations très privilégiées avec un gendarme en charge de l'enquête qui est en cours. Ce gendarme va organiser à la demande de la nourrice une rencontre entre cette nourrice et Martine Compain dans une galerie marchande. Ces dames vont se rencontrer, vont discuter, et à la suite de cette rencontre, la nourrice va faire la démarche d'écrire au juge d'instruction, elle va être réentendue et elle va indiquer à ce moment-là, non, Solène avait une couche propre et sentait le bain. Cette version change après une rencontre. Donc vous avez ça, et puis je reviens très rapidement sur l'ADN, le mélange d'ADN sur le couteau, c'est quand même un argument qui est très fort, qui avait été soulevé par le parquet lorsqu'il a sollicité la mise en examen de Martine Compain, et lorsqu'elle a été rejetée dans l'acte d'appel, ce mélange d'ADN a été rappelé. Donc, évidemment que devant la chambre de l'instruction, on s'attendait effectivement à ce que cet argument soit repris. Il a été repris par le parquet général pour dire que, oui, mais en fait, c'est un couteau qui a été retrouvé dans la cuisine.
Donc tout le monde peut l'utiliser.
Martine Compain avait pour habitude de garder ses nièces.
J'ai compris l'argument.
Donc, évidemment, les enfants qui ont 8 ans jouent avec des couteaux de cuisine de cette nature-là dans une cuisine
et on sent l'ironie.
C'est de l'ADN. Enfin, ce sont les incohérences de ce dossier qu'on n'a pas pu relever, et en tout cas, du point de vue de Solène Le Prince, qu'on lui a systématiquement remise dans la figure, excusez-moi de l'expression, mais parce que elle, c'est comme ça qu'elle le ressent. Elle me dit, moi, mes questions, je n'ai pas de réponse parce que Dany Le Prince a été condamné. Aujourd'hui,
elle était bloquée, en fait, on a très bien compris. Elle était bloquée, désormais la voix sourde.
Et c'est pour elle que le chemin va être encore long, effectivement. C'est pour elle, finalement. Mais elle le veut.
Ce qui est vrai, c'est que Martine Compain, c'est un mur de silence. On a essayé de la rencontrer, elle n'a jamais parlé.
Enfin, du coup, elle a parlé aux enquêteurs avec de multiples versions, mais elle dit beaucoup de bêtises.
Elle n'a jamais parlé à personne, on a essayé de la rencontrer, on a essayé de passer par ses avocats de façon très officielle. Elle a toujours refusé de parler, c'est un mur du silence. Votre innocence, elle va poser problème, Dany Le Prince, parce que ça veut dire que ça n'est pas vous. Ça veut dire que derrière, la justice s'est trompée, donc il va falloir qu'elle répare, mais ça, c'est pas le moment d'en parler.
Il faut surtout qu'elle trouve un coupable.
Et il va se falloir maintenant trouver le coupable. ça veut dire que c'est quand même pour elle un vrai
aveu d'échec. C'est pour ça que vous aviez raison de faire la comparaison avec l'affaire Diels, ouais. Puisque 15 ans après l'acquittement de Patrick Diels, Francis Holm a été condamné. Donc si vous voulez, en réalité, nous affirmons que la vérité est en marche dans ce dossier, et que vous voyez la remarque que vous faisiez tout à l'heure par rapport à la couche. Pourquoi est-ce que vous dites cela? Parce que vous avez eu entre les mains l'arrêt de la chambre d'accusation, et l'arrêt de la chambre d'accusation tronque la vérité.
Il faut reprendre des nouvelles.
En disant qu'elle avait été changée, que la couche était propre, alors qu'il y a des déclarations de Nelly Hatton qui disent que lorsqu'elle l'a récupérée, la couche était sale. C'est-à-dire que, et c'est cela qui va être très intéressant, pour le président de la cour d'assises qui va présider, c'est qu'il va avoir un arrêt de la chambre d'accusation qui saisit, parce que c'est cet arrêt-là qui saisit, avec, je dirais, des erreurs considérables et un affaiblissement qui est effectué par la cour de révision.
Est-ce que mettre le fameux major, vous allez lui demander de venir?
Il est mort.
Ça,
c'est une autre difficulté, c'est-à-dire que nous demandons à ce que le procès puisse avoir lieu le plus rapidement possible, parce que les faits ont eu lieu en 1994, il y a des témoins, des experts qui sont morts, et il ne faut pas attendre 3 ans, 4 ans, si vous voulez. Et nous avons conscience que les cours d'assises sont surchargées, mais nous allons prendre attache avec les chefs de juridiction pour que un procès puisse essayer, dans toute la mesure du possible, d'être organisé dans des délais qui soient raisonnables.
Mais ça veut dire donc qu'il faut tous faire l'effort collectivement de mettre de nouvelles lunettes et de repartir à zéro, avec ce prisme-là, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et c'est ça qui, je trouve, rend l'histoire passionnante.
Et notamment avec tout ce que je disais tout à l'heure, tous les indices dont on a parlé qui existent, qui avaient été mis de côté parce que ils ne rentraient pas, le rond ne rentrait pas dans le carré ou le carré ne rentrait pas dans le rond, eh bien là, ils vont venir appuyer au procès, et je fais confiance aux avocats de Monsieur le Prince, pour dire, regardez toutes ces incohérences qui ne désignent pas notre client, qui, au contraire, vont vers d'autres pistes, et elles ne pourront étudier ces autres pistes qu'une fois que le procès est terminé, où on va avoir déjà ce premier regard et ça ne colle pas, et le deuxième regard, quand ça sera fini, de dire, mais maintenant on peut les utiliser pour une autre enquête, une autre instruction vers quelqu'un.
Qu'est-ce que risquent les gendarmes qui ont mal fait leur boulot? Comme dans l'affaire Liana, vous voyez?
Par exemple, une action en responsabilité contre l'État. Et puis, peut-être des actions récursoires derrière. C'est ce que je dis souvent, vous savez, lorsqu'il y a comme ça des dysfonctionnements qui sont graves de la justice, parce que derrière, si jamais c'est une erreur judiciaire, et la Cour de révision en est parfaitement consciente, c'est l'une des plus grandes erreurs judiciaires françaises. Il a fait 18 ans de prison. Personne d'autre dont la condamnation a été annulée, a fait autant de prison. Personne.
Le plus, c'était Patrick Diels qui en avait 14.
Merci. Merci à tous de vos lumières. Merci de vos éclairages. Merci de votre présence, Daniel Prince. Merci de nous avoir suivis. Merci, Dominique, de m'avoir accompagné tout au long de cette saison.
C'est la fin de la saison. Pour moi, c'est terminé.
Pour vous, c'est terminé. Pour moi, pas encore. Merci beaucoup. Vous avez rendez-vous maintenant avec l'info et avec Loïc Besson sur BFM TV.